солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour à tous, c'est Raphaël, vous écoutez le podcast de Football Ski, voici le programme. La longue trêve hivernale s'achève, les championnats reprennent un peu partout en Europe de l'Est et le podcast est lui aussi de retour après 2 mois d'absence. Pour démarrer cette deuxième partie de saison, nous vous proposons une émission spéciale puisque celle-ci sera entièrement consacrée au CSKA Moscou. Analyse tactique, état des forces en présence, rappel historique, vous saurez tout sur le futur adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Objectif réel pour certains, vœux pieux pour d'autres, la Ligue Europa ne laisse en tout cas personne insensible du côté de l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, cette année, la finale de la compétition aura lieu au Groupama Stadium, dans l'antre des Gones. Mais la route est encore longue et, après Villarreal, c'est au tour du CSKA Moscou de se dresser face aux Rodaniens. Cet adversaire est finalement assez méconnu en France et nous allons donc tâcher de vous le présenter du mieux possible. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 membres de la rédaction de Football Ski. D'un côté, nous avons déjà Antoine, qui avait participé au podcast spécial Football Ski Trip. Salut Antoine.
Salut à tous.
Nous avons aussi Robin, pour qui il s'agit d'une première intervention dans un de nos podcasts. Salut Robin, bienvenue.
Salut Raphaël, bienvenue à tous.
Et enfin, un troisième invité, bon lui c'est un petit peu un membre habitué hein, pour le coup des podcasts, c'est Lazare.
Salut à tous.
Bon, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. La RPL, le championnat de première division russe, vient tout juste de reprendre. Si on jette un coup d'œil rapide au classement, on constate que le Lokomotiv Moscou bon, est en tête avec une certaine avance sur un peloton du poursuivant. Parmi ce peloton, il y a le CSKA Moscou qui navigue 4e, 5e position. Bon, on va commencer avec toi, Robin. Comment est-ce que tu peux qualifier ce classement du CSKA? Est-ce que c'est flatteur? Est-ce que c'est décevant? Est-ce que c'est autre chose?
Alors, je dirais que c'est un classement un peu entre les deux, alors... Pas forcément flatteur parce que c'est la position du CSKA, l'effectif est de qualité et on s'attend à ce que le CSKA joue les premiers rôles en RPL. Mais on sait également que le championnat reste très serré. Krasnodar, qui est deuxième actuellement, est à un point du CSKA. Donc rien n'est joué, la lutte va être féroce avec le Spartak et le Zénith. Notamment le Lokomotiv semble détaché, mais on va voir comment ça va se passer. Du coup, pour le CSKA, c'est une saison qui va falloir attendre pour savoir si elle est vraiment décevante ou flatteuse, vraiment.
Il y a 10 points qui séparent actuellement le CSKA Moscou, qui est 5e, et Ufa, 6e. La 5e place, c'est la dernière place qualificative pour l'Europe. Donc, on peut dire que le CSKA Moscou est déjà sûr de pouvoir disputer une compétition européenne l'année prochaine. Bien évidemment, l'objectif, ça va être au moins la 3e place direction les barrages pour la Champions League. À voir ce que nous propose le CSKA Moscou pour la deuxième partie de saison.
Je suis d'accord avec toi, Antoine, parce que forcément, le CSKA, c'est les 3 titres de champion de Russie sur les 5 dernières années. Le CSKA ne peut pas se permettre de ne pas être dans les 3 premiers en fin de saison. Mais évidemment, le Zénith fait une belle saison également, le Krasnodar par ailleurs, et le Spartak, le rival moscovite. Donc ça va être une fin de saison excitante dans tous les cas en Russie. Et le CSKA va se mêler à cette lutte. Est-ce qu'ils vont réussir à finir dans le top 3? Ça va être la question de cette deuxième partie de saison, vraiment.
Je rajouterai un petit point après le match du Spartak ce week-end face au Lokomotiv et le nul 0-0 entre les deux équipes. C'est que le Lokomotiv s'est vraiment détaché et donc on a une compétition qui reste plus qu'entre beaucoup de clubs pour uniquement 2 places pour terminer dans les 3 premiers. Ce qui fait que la Coupe d'Europe est aussi un match important pour le club.
Ok, bah justement on va parler du CSKA Moscou un peu plus précisément. Et j'aimerais commencer avec toi Antoine, est-ce que tu pourrais me présenter les points forts de cette équipe ?
C'est un club qui a gagné la Coupe de l'UEFA en 2005, mais c'est un club qui semble un petit peu sur le déclin. La faute à un nouveau stade qui a coûté extrêmement cher au président, qui a beaucoup moins à investir dans son club. Donc des joueurs qui sont un peu moins bons, un effectif qui est un peu sur le déclin. Mais le CSKA Moscou a une arme redoutable, c'est son milieu de terrain. Sous Gontcharenko, le nouveau coach, ils ont basculé en 3-5-2 et on a un milieu de terrain qui est vraiment très puissant, très technique, avec des joueurs comme Zagoev et Golovin qui sont des véritables techniciens et qui vont très certainement faire du mal aux Lyonnais. Ce sont vraiment les deux joueurs à surveiller au milieu de terrain du CSKA Moscou. Après, il y a bien évidemment Igor Akinfeyev, hein, le grand portier du CSKA Moscou, la légende du club, qui aura très certainement un rôle dans cette double confrontation. Donc vraiment, le milieu de terrain et le portier, ce sont les points clés, ce sont les postes phares pour le CSKA Moscou.
Antoine, j'ajouterais même un autre joueur au milieu de terrain. Tu as mentionné Zagoyev, Golovin, ce sont des joueurs que le public connaît un petit peu. Mais moi, je voudrais insister sur Nacho, qui est israélien, le numéro 6 maintenant du CSKA. Il était passé par Rubin Kazan entre 2010 et 2014. Et vraiment, si le milieu de terrain du CSKA marche si bien cette année, certes, c'est parce que Zagoyev réalise une belle saison, Golovin confirme les attentes placées en lui, mais Nacho permet à ces deux joueurs de s'exprimer techniquement en cadenassant très très bien le milieu de terrain dans cette position de numéro 6. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, selon moi, au milieu de terrain.
Oui, en effet, Nacho, il a eu un petit passage à vide la saison dernière, et depuis l'arrivée de Goncharenko de CSKA Moscou, qui a instauré ce 3-5-2 qui était une véritable révolution au niveau du club, il a repris une place de sentinelle au milieu de terrain et il a repris du galon, et c'est vraiment également un joueur très important dans l'effectif du CSKA Moscou.
D'accord, donc là on a un petit aperçu des points forts, et à contrario, donc Robin, je vais te demander, quels sont les points faibles, en gros, là où Lyon devrait insister pour faire mal à cette formation ?
Alors clairement, le point faible, c'est la défense. La défense assez lente. Alors on vient de mentionner qu'ils jouent en 3-5-2 dorénavant, mais les frères Berezovski, avec Vassili notamment, qui est toujours titulaire, commence à faire son âge. Il a 35 ans, des centaines de matchs avec le CSKA. C'est un joueur emblématique. Mais c'est là que les joueurs lyonnais, avec leur vitesse, notamment je pense aux quatuors d'attaque, va devoir faire la différence. Parce que des joueurs comme Ignacevic, Berezovski ou même Verblom, qui des fois peut jouer en position défensive sur la droite, c'est des joueurs qui n'ont pas cette capacité à être vifs dans les petits espaces, et Lyon va devoir insister sur ça. Petit point médical que le CSKA vient de communiquer, Mario Fernandez, donc l'un des défenseurs qui joue normalement sur la droite de la défense, est blessé pour 6 mois après une blessure à la hanche contre Oural ce week-end. Donc ça, c'est une grosse perte, lourde perte dans la défense pour le CSKA. Et Lyon va devoir insister sur ce côté droit qui sera affaibli.
Il y a également Victor Vasin et Vassili Berezovski qui seront absents pour la rencontre, ainsi que Chenikov. Donc c'est énormément d'absents défensivement pour le CSKA. Donc ça va vraiment être une défense bis. La grosse interrogation, c'est au niveau de Verblom. Verblom qui est normalement milieu défensif, mais qui peut également jouer buteur. Goncharenko l'a fait jouer à ce poste plutôt de manière très surprenante à plusieurs reprises cette saison, mais il commencera certainement en position de défense centrale pour ce match contre l'Olympique Lyonnais.
Attends, donc tu me dis qu'il y a un joueur qui normalement est défenseur, voire milieu défensif, et qui peut jouer en attaque.
Oui, en effet, il y a eu beaucoup de soucis au cycle aller pour le CSKA Moscou. Ola Noré, le Nigérian, le buteur, était totalement à la ramasse, hein. Il a été même prêté à l'Amkar Perm. Le seul qui tenait à peu près la baraque devant, c'était Vitinho, le Brésilien. Il y a Chaloff également, mais qui est encore un peu jeune, un peu frêle, qui manque encore d'impact devant. Donc Goncharenko a décidé de faire un choix fort en mettant Verblom en attaque, et ça a été plutôt pas mal puisque le Suédois a réussi à marquer quelques buts lors du cycle aller.
C'est quelque chose qu'on a vu également lors du match face à l'Étoile Rouge de Belgrade, où au match aller, Verblom a été en défense centrale aux côtés de Berezovski et de Vassin, alors qu'au match retour, il était à la pointe de l'attaque, le numéro 9 du triangle offensif avec Moussa et Vitinho, qui a match retour où le CSKA Moscou a d'ailleurs gagné 1-0, montrant un peu la complémentarité du joueur.
Et vous avez parlé un petit peu de Moussa, est-ce que son retour a été, est couronné de succès pour l'instant ?
Le retour de Moussa, pour moi, c'est une très bonne chose. On parlait un peu des problèmes offensifs. Le fait que Verblom soit amené à jouer en attaque, pour moi, montre beaucoup de choses. Goncharenko n'a pas beaucoup d'options offensives. Le retour de Moussa, c'est forcément une bonne chose. Rappelons très brièvement qu'il est passé entre 2012 et 2016 au CSKA. 162 matchs, 53 buts, un très bon ratio. Après, il s'est un peu perdu à Leicester City où devant Vardy et d'autres joueurs lui bloquaient un peu le passage. Là, le CSKA, c'est une bonne opportunité pour lui de se relancer et pour relancer l'attaque du CSKA.
Donc au niveau des joueurs à suivre, on a évoqué Zagoyev, on a évoqué Golovin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on pourra éventuellement parler pendant la Coupe du Monde qui pourraient être des cadres de cette équipe pour la Coupe du Monde ?
Alors, les cadres véritablement de cet effectif du CSKA Moscou et également de la Sbornaïa pour le Mondial, ça sera bien évidemment le portier Igor Akinfeyev, qui est le capitaine du CSKA, qui est le capitaine de la Russie, qui est un joueur vraiment emblématique que ce soit pour le club ou pour la sélection. C'est lui qui peut sauver un match, c'est lui qui peut transcender son équipe. Il va avoir un rôle crucial contre l'Olympique Lyonnais, puisqu'il risque certainement d'être mis au travail à plusieurs reprises. Après, dans l'effectif du CSKA, donc il y a Zagoev et Golovin qui joueront certainement le mondial, sauf blessure. Mais c'est vrai que ça manque quand même de gros cadres au CSKA Moscou. Il y a les défenseurs, bien évidemment, les Berezovskis qui sont très expérimentés, mais qui commencent à être vraiment sur le déclin. On est un peu à la recherche de joueurs clés. Il y a Zagoev qui réalise jusque-là une bonne saison, mais il a montré à certains moments des petits coups de moins bien, un peu sur certains matchs, il semblait un peu en dedans. Donc c'est vraiment une grosse interrogation pour le match contre l'Olympique Lyonnais. Il peut nous sortir des matchs vraiment incroyables contre le FC Bâle. Il avait réalisé un match de feu qui avait permis au CSKA de l'emporter 2-1. Mais il est capable aussi d'être un peu moins bien, comme ce week-end face à l'Oural et Ekaterinbourg. Donc c'est vraiment une interrogation, et c'est un joueur qui au milieu de terrain va être très important contre l'Olympique Lyonnais.
On parlait là tout juste des cadres. C'est des cadres qui sont quand même vieillissants. Akinfeyev, Berezovski, Zagoyev. C'est une génération qui est presque dépassée. Elle va faire un dernier mondial, le mondial à domicile. Mais c'est quand même des cadres qui sont vieux. Alors, il y a Golovin, Tchalov, que tu as mentionné tout à l'heure, Antoine. Mais Tchalov, il est né en 98. C'est encore très tendre pour le niveau, même le Europa League. Donc, le CSKA va devoir se réinventer un peu. Mais comme on l'a déjà mentionné, Zagoyev, Akinfeyev, c'est leur dernière joute européenne. Et forcément, ils vont avoir à cœur de faire quelque chose contre Lyon, c'est sûr.
Mais surtout que les Berezovskis, ils ont pris leur retraite internationale, ainsi que Kinyasevich, donc ils ont vraiment plus que ces compétitions européennes-là à jouer. Pour le CSKA Moscou, c'est quand même une occasion en or. Hein. La dernière fois qu'ils sont sortis des phases de groupe d'une compétition européenne, c'était en 2012, ils s'étaient fait battre par le Real Madrid. Donc c'est très rare que le CSKA Moscou atteigne ces phases éliminatoires, et il va falloir sortir le grand jeu s'ils veulent passer en quart.
Intéressons-nous maintenant à l'entraîneur Viktor Gontcharenko, qui est donc biélorusse, qui est passé par le Baté Borisov, si je dis pas de bêtises. Il est arrivé en décembre 2016 à Moscou, et donc si j'ai bien compris, tactiquement, il a porté une certaine nouveauté avec un 3-5-2, c'est bien ça, Robin ?
Ça a été une vraie révolution pour le CSKA, qui ne jouait généralement pas du tout dans cette formation-là. En Russie, c'est d'ailleurs pas une formation qui est grandement utilisée, on le sait que ça peut l'être dans d'autres championnats, aux Pays-Bas ou en Italie notamment, mais en Russie, c'est pas le cas. Et vraiment, cet apport tactique, c'est un entraîneur très jeune, il a 40 ans, il a commencé, il avait à peine 31 ans en Biélorussie à entraîner. Au Baté Borisov, il a eu de très bons résultats, et là, au CSKA, il continue à confirmer, même avec un effectif qui, comme on l'a dit, n'était pas forcément de qualité exceptionnelle.
Gontcharenko, c'est un entraîneur qui a un parcours très particulier. Il a fait plusieurs clubs en Russie. Il y a une grosse polémique en Russie. Il est passé par le Kouban Krasnodar. Il l'a entraîné quelques temps. Puis il a rejoint l'Oural Ekaterinbourg, où il est resté seulement 2 mois avant de rentrer chez lui en Biélorussie pour quelques temps. Et il a rejoint le CSKA Moscou, qui était alors entraîné par Leonid Slutsky. Il était destiné à reprendre le CSKA Moscou, et pour cela, le CSKA Moscou l'a envoyé entraîner Oufa pendant quelques temps, pour que justement il se fasse les armes, pour qu'il puisse reprendre le CSKA Moscou et donner une continuité à ce qu'avait créé Slutsky jusque-là.
Du coup, Oural, il est resté que 2 mois, mais Oufa, il est aussi resté que 6 mois, ce qui est quand même très rare pour un manager qui montre un peu le parcours tout tracé qui était prédestiné pour lui, et là, à quel point le CSKA avait prévu qu'il prenne la relève de Slutsky, et que du coup il apporte des idées neuves en même temps dans un cas, tout en connaissant la maison déjà. Et tout à l'heure on évoquait la formation, le 3-5-2 qui a été donc sa marque de fabrique, mais il faut pas oublier de pourquoi il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a une défense vieillissante qui a du mal et qui prenait énormément de buts, et apporter une défense à 3 avec 3 défenseurs centraux derrière permettait d'apporter une certaine stabilité pour cet entraîneur qui voyait les choses de façon un peu différente.
Là, tu viens de mentionner un truc très intéressant, Lazare, c'est qu'il est arrivé à un moment, en décembre 2016, où il y avait des gros problèmes défensifs, Slutsky n'arrivait plus à gérer, et donc il a été rappelé par le board du CSKA pour venir entraîner, et c'est vraiment dans une période un peu de crise pour le club qu'il a été appelé, d'Oufa, là où il avait été envoyé finalement pour un peu faire ses armes avant de prendre les rênes du CSKA. mais il était rappelé en période de crise, et ça, je pense, c'est important de le mentionner.
Il faut savoir également que ce 3-5-2, c'est vraiment une idée très intéressante, hein, comme on l'a signalé, la défense est assez vieillissante et lente, mais le fait d'avoir mis ce 3-5-2, c'est l'idée également d'avoir mis deux anciens latéraux, Mario Fernandez, le Brésilien qui ne sera pas là contre Lyon, et Chenikov qui sera également absent, qui étaient à la base des latéraux, qui se passent maintenant au milieu de terrain et qui font vraiment des distances de marathoniens dans les matchs en passant de la défense à l'attaque. Ça permet vraiment de donner une plus grande confiance, une plus grande sérénité à la défense du CSKA Moscou et d'encaisser moins de buts.
Et ça permet par ailleurs aussi d'alimenter Vitinho et Moussa en attaque, qui sont deux joueurs qui aiment les petits espaces, qui aiment prendre les espaces, la vitesse, ils sont vifs, rapides, ils s'entendent très bien sur le terrain. Et du coup, Mario Fernandez, c'est un joueur qui aime apporter offensivement. Et c'est vrai qu'avant, quand il jouait à 4 à plat sous Slutsky, il était un peu brisé sur le côté droit. Il ne pouvait pas apporter autant offensivement que ce qu'il voulait. Et maintenant, c'est vrai qu'il ne sera pas là jeudi contre l'Olympique Lyonnais, sachant qu'il est blessé. Mais c'est des joueurs qui apportent offensivement. Et c'est aussi pour alimenter cette animation offensive que le 3-5-2 a été privilégié par Gontcharenko.
Et puis, il faut vraiment voir également, là, quand on regarde le classement, le CSKA Moscou, c'est la troisième meilleure défense du championnat. Ça faisait vraiment longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, ça montre vraiment que ce 3-5-2 commence à porter ses fruits et est très intéressant au niveau du championnat russe.
Mais dans le même temps, le 3-5-2 est également l'expression même de cet entraîneur, parce qu'il utilisait déjà ce schéma à l'époque d'Oufa, avec notamment un certain Victor Vassine en défense centrale.
Très bien, bon, c'était intéressant d'avoir toutes ces infos sur le schéma, le 3-5-2. Alors ce que j'entends quand même depuis quelques minutes, c'est que vous me parlez de joueurs qui seront absents pour ces matchs face à Lyon. Est-ce qu'il y a un banc quand même derrière pour pouvoir assurer, ou est-ce qu'ils vont être un peu justes au niveau de l'effectif, Antoine ?
Ah ouais, gros souci, c'est que justement le CSKA Moscou n'a quasiment pas de banc. Sur le banc, on retrouve beaucoup de jeunes. On retrouve des joueurs comme Milanov, qui est un milieu de terrain. En défense, on pourra certainement retrouver Nababkin, mais qui n'a pas le niveau d'un Chenikov ou d'un véritable défenseur central comme Vazdin et Berezutsky. Donc le banc, c'est vraiment la grosse faiblesse du CSKA Moscou, qui n'a plus les moyens de recruter énormément de joueurs, qui s'appuient sur sa formation. On va certainement voir également jeudi Kouchaev, qui est un jeune joueur issu de la formation, qui a disputé plusieurs rencontres en Champions League et en Europa League. Donc le banc, c'est vraiment un gros souci au niveau du CSKA Moscou. S'il continue à avoir des absents et des suspendus, ça va vraiment être problématique contre l'Olympique Lyonnais.
Ça, c'est sûr, Antoine, parce que le banc n'est pas très fourni. Tu viens de mentionner Kouchaev. Lui, c'est une bonne révélation de cette saison, notamment dans ce système du 3-5-2 dont on parlait juste avant. C'est le pendant de Mario Fernandez sur le côté gauche. Avec Golovin et Moussa, ils arrivent à très bien combiner. Donc lui, c'est une bonne perle. Mais c'est vrai que sur le banc, il n'y a pas beaucoup de joueurs. On a mentionné Tchalov en attaque tout à l'heure. Mais c'est vrai que Gontcharenko n'a pas beaucoup d'options pour remplacer ces joueurs qui, quand même, les joueurs qui vont manquer jeudi, sont des joueurs très importants.
Pour revenir à ce qu'on a dit sur le manque de profondeur de banc, c'est quelque chose qui a été criant face à Zvezda, où il y a eu, au match aller, donc en Serbie, il y a eu un seul changement qui a été effectué, c'est-à-dire l'entrée de Tchalov. Et au match retour, donc à domicile, Gontcharenko s'est permis une petite folie avec deux changements. Donc, alors que dans les deux cas, Zvezda avait fait un changement de plus à chaque fois.
Donc on l'a dit, hein, le CSKA, ils ont clairement plus les moyens de recruter comme ils le faisaient avant. Ils s'appuient sur la formation. C'est une formation d'ailleurs qui marche très bien, puisque le CSKA Moscou rivalise en Youth League, qui est la compétition des moins de 21 en Russie, avec Krasnodar, qui est la meilleure académie du pays, deuxième de la Youth League, donc d'excellents produits qui vont sortir dans quelques temps du centre de formation. Donc c'est une bonne nouvelle pour Gontcharenko et pour les dirigeants. Ça fera des nouvelles recrues gratuites qui vont pouvoir tout doucement prendre leur place dans le 11 de départ.
D'accord, et il y en a un qui lui devrait être là quoi qu'il arrive, d'ailleurs normalement il sera là, il n'y a pas de souci. C'est le gardien, on en a beaucoup parlé, Igor Akinfaev, grande figure du club, plus de 500 matchs, formé au CSKA, qui a fait toute sa carrière au CSKA. Bon, alors moi, je vais être un petit peu dans le cliché, puisque je ne revois pas tous ces matchs non plus, mais il me semble que ce soit en club ou en sélection, c'est un gardien qui est assez spectaculaire, aussi bien capable de sortir des arrêts de fou que de faire des grosses boulettes.
Je crois que tu as très bien résumé la situation. Alors, il s'est quand même un peu calmé, il faut être honnête, avec l'âge, il est un peu plus vieux maintenant, mais c'est un gardien spectaculaire de cette génération russe de l'Azbornaïa du début des années 2000. Il jouait avec ce style, c'est vrai, un peu tout feu, tout flamme. s'est calmé, mais on n'est pas à l'abri de petites bourdes chaque année. Il y en a quelques-unes, ce qui n'enlève pas la qualité du gardien, il faut être honnête. Dans les airs, il est toujours aussi impressionnant. Et c'est un leader d'homme. Hakim Fayyaf, c'est le capitaine. Et c'est vraiment là aussi qu'il doit jouer son rôle, notamment dans les compétitions européennes, comme je dis, où là, il va devoir rassurer ses coéquipiers et vraiment jouer son rôle de capitaine à fond.
Il faut savoir qu'Hakim Fayyaf, il était déjà titulaire au CSKA Moscou en 2005 quand ils ont gagné la Coupe de l'UEFA. Donc ça montre tout le parcours qu'il a fait au CSKA Moscou. Il a fait toute sa carrière. Il a rejoint le CSKA Moscou quand il était très jeune, au centre de formation. Et il a eu une offre d'Arsenal quelques années après le titre de Coupe de l'UEFA, mais il a décidé de rester au CSKA. Il est toujours titulaire indéboulonnable malgré ses boulettes également avec la Sbornaïa, comme il a pu faire au Brésil contre la Corée du Sud en 2014. Mais il est toujours là, il est toujours présent. Je pense que l'Europe l'a redécouvert lors de l'Euro 2016 quand il nous a sorti son match incroyable face à l'Angleterre. Donc c'est vraiment le point fort et ça sera l'élément vraiment de ce match contre l'Olympique Lyonnais.
Et donc cette saison, il faut rappeler aussi que le CSKA n'était pas en phase de groupe de Ligue Europa puisqu'ils ont été reversés de la Ligue des Champions. Alors je rappelle la composition de leur groupe en Ligue des Champions. Ils étaient avec Manchester United, le FC Bâle et le Benfica Lisbonne. Ils ont terminé 3e de leur poule. De manière générale, comment est-ce qu'on peut évoquer et résumer ce parcours? Est-ce que c'est une certaine satisfaction vis-à-vis des performances réalisées ou est-ce que des regrets d'avoir terminé derrière Bâle qui semblait quand même être une équipe avec laquelle c'était 50-50, Robin?
Oui, alors moi personnellement je pense que le CSKA était à sa place. Bâle, oui, ne fait pas office de dogre dans la Ligue des Champions, mais réalise une très belle saison en championnat et un effectif de talent. La double confrontation contre Manchester, ça ne s'est pas joué à beaucoup à Old Trafford, alors qu'à Moscou, pourtant, le CSKA avait pris 4-1, et là, la différence était flagrante. Contre le Benfica, le CSKA a fait ses deux matchs, ils ont pris 6 points. Sur cette poule, c'est peut-être le match à domicile contre Bâle où là le CSKA perd 2-0, c'est peut-être là que ça s'est joué. Mais sinon le CSKA a plutôt bien performé à son niveau.
Moi j'ai eu la chance de voir le CSKA Moscou quand ils ont joué à Bâle contre le FC Bâle.
Ah oui, t'étais au Parc Saint-Jacques du coup.
Voilà, c'est ça, j'étais présent sur place. Donc c'est vrai que ça a été un très gros match de la part du CSKA Moscou. C'est justement l'entrée de Zagoev à la mi-temps qui a fait la différence, qui a permis au CSKA de d'égaliser puis de gagner en toute fin de match. Et c'est vrai que cette rencontre face à Bâle, ça a été un petit tournant parce qu'on restait quand même sur une grosse défaite amère à domicile contre Manchester United et contre Bâle. Ça a vraiment permis de relancer la machine. Donc derrière, ils ont réussi à battre Benfica et ils n'ont pas réussi l'exploit de gagner à Old Trafford. Mais ça a vraiment donné un coup de boost dans la saison de CSKA Moscou, que ce soit en Champions League ou en championnat.
Et bon, maintenant, la situation en championnat fait qu'ils sont à la lutte pour le podium, même si le titre semble assez difficile à aller chercher. Ils ne sont plus engagés en Coupe de Russie. La Ligue Europa, est-ce que c'est vraiment un réel objectif selon vous, Antoine?
Alors la Ligue Europa, c'est un objectif pour le club d'aller le plus loin possible. Pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Plus on va loin en Europa League, plus les caisses se remplissent. Et c'est ce que recherche le président du club, Evgeny Kiner, le russe, qui investit énormément dans son équipe et dans son stade et qui attend maintenant des retombées économiques. Et pour cela, un bon parcours en Europa League permettrait de renflouer correctement les caisses.
Ça permettrait de renflouer les caisses et aussi de faire de la pub pour les joueurs qui composent l'effectif du CSKA. S'il y a des valeurs marchandes, on pense au jeune Golovin, hein, effectivement. Golovin avec la Coupe du Monde cet été, ça peut être une année où le CSKA peut s'en séparer. Et forcément, les matchs du jeudi soir en Europa League sont des matchs que les recruteurs vont regarder. Donc c'est aussi une possibilité pour le CSKA de se montrer à ce niveau-là, c'est sûr.
Sur l'aspect publicitaire, comme tu dis, effectivement, j'abonde dans le même sens, c'est-à-dire que ça permet aux joueurs de se montrer dans magazines d'expérience pour les plus jeunes, comme tu dis, pour Golovin, pour préparer la Coupe du Monde. Et c'est aussi une façon pour le club d'exister encore, alors qu'il a, comme on l'a évoqué, qu'il n'arrive plus à recruter d'un point de vue salarial, ils n'ont plus la capacité de mettre autant d'argent qu'avant. Et ben, en jouant régulièrement la Coupe d'Europe, en réalisant régulièrement de bonnes performances, le club montre une bonne image et ce qui permet aussi de montrer que le club est encore présent, est encore capables de faire de bonnes performances et donc ça étire aussi des joueurs d'une façon générale.
C'est vrai que c'est très important pour le CSKA Moscou parce qu'il commence à être plus ou moins dans l'ombre des autres clubs moscovites. Le Spartak Moscou, c'est bien sûr le club le plus supporté, le plus soutenu de la capitale russe, plus suivi. Mais le CSKA Moscou regarde également d'un mauvais œil le bon parcours en championnat du Lokomotiv Moscou et également en Europa League, puisqu'il pourrait limite être en passe de devenir le troisième club de la capitale, ce qui est tout à fait impensable pour les dirigeants.
Et au tour précédent, alors revenons-en à la Ligue Europa, les Rouges et Bleus ont éliminé non sans mal l'Étoile Rouge de Belgrade. 0-0 à l'aller au Rajko Mitic et 1-0 au retour à Moscou. Alors Lazare, toi qui as regardé avec intérêt et passion ces deux matchs, puisque tu as suivi les résultats de l'Étoile Rouge, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était plutôt laborieux quand même, non?
Comment dire d'un côté, mon côté c'est un peu supporter de l'Étoile Rouge, pleure, mon cri est déçu. De l'autre, bon, c'était une belle performance des joueurs. Pour revenir au CSKA, ils ont réussi à planter. Bon, à l'issue du premier match, on a su que la première équipe qui allait planter allait gagner la rencontre. Ils ont réussi à planter en fin de première mi-temps et derrière, ça a bétonné. On avait deux équipes qui étaient très en place d'un point de vue tactique, ce qui est assez important à signaler. Mais c'était laborieux. C'était laborieux, c'était compliqué. Et on n'a pas vu grand-chose sur le terrain. L'Étoile Rouge de Belgrade, par exemple, a compris qu'à partir du moment où ils remontaient, que les joueurs remontaient eux-mêmes le ballon, et qu'ils arrivaient à effacer les joueurs en face d'eux, ils arrivaient à créer des ouvertures qui avaient du décalage et qu'il y avait du danger. Si on balance des longs ballons devant, ça n'arrivait pas à grand-chose, mais qu'à chaque fois qu'on remontait manuellement le ballon, ça passait. Le danger a été très très présent dans les 25 dernières minutes du match retour, quand l'Étoile Rouge a décidé de jouer avec deux attaquants devant et a fait rentrer de la vitesse avec Sernic, et où Ben est passé devant Sernic sur le côté. Et là, il y a eu de la profondeur, il y a eu de la vitesse, c'est parti devant. Et pendant 25 minutes, ça a été un attaque-défense où la défense du CSKA vraiment morflé et n'a réussi qu'à survivre qu'à la maladresse de certains attaquants de l'Étoile Rouge. Donc, pour revenir à ça, on voit que le poids des années commence à être un handicap vraiment pour Ignacevic, Berezovski. On parle quand même de Ignacevic, 38 ans, Berezovski, 35, même Verbloom qui était en défense centrale au match aller, 31 ans. Ça fait une moyenne d'âge assez rare sur des terrains, quoi. Donc, de ce côté-là, Lyon a une vraie carte à jouer en écartant et en jouant sur la vitesse, en cherchant de la profondeur, parce que c'est là où la défense est friable et de toute façon, c'est à celui qui va marquer le plus de buts. De ce côté-là, je ne fais pas trop de soucis pour Lyon.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les clubs russes viennent tout juste de reprendre la compétition après presque 3 mois de trêve. Donc forcément, il manque un certain rythme. Et justement, que font ces équipes pendant cette longue période, Robin ?
Et ben, pendant cette longue période, ils essaient déjà de se reposer. Il y a eu des blessures. Ils partent souvent en Espagne, en Italie, à Dubaï, au Qatar. Et c'est là qu'ils peuvent se refaire une forme, affronter des équipes étrangères qui sont dans le même cadre qu'eux. Alors, c'est souvent des clubs de République tchèque, polonais, Danemark. Moscou cette année a affronté le club espagnol d'Elche, même quand ils étaient en stage en Espagne, avec une victoire 3-0 à la clé. Donc c'est cette période où on peut tester certaines nouvelles associations. Il y a des nouveaux joueurs qui intègrent le groupe, mais c'est pas facile à gérer. On sait que chaque année le débat revient. Le Zénit de son côté contre le Celtic a failli ne pas passer, alors que le Celtic ne présente pas une équipe très forte cette année. Mais le manque de temps de jeu à la reprise en février, quand il y a les 16e de finale d'Europa League, c'est un vrai point négatif pour les équipes russes. Là, le CSKA s'en est plutôt bien sorti. Le championnat a repris ce week-end avec un match contre Oural et une victoire 1-0 à domicile. Est-ce que la mécanique s'est remise en route? C'est possible, mais c'est quand même pas facile à gérer, sachant que le match va jouer dans des conditions climatiques très compliquées.
Par rapport aux préparations hivernales, c'est vrai que c'est l'éternel débat en Russie. Est-ce qu'on doit passer le championnat sur l'année civile ou le garder comme on a actuellement? C'est une question qu'il est très difficile de répondre, même si en effet le championnat sous l'année civile nous proposait des affiches un peu moins what the fuck qu'on peut avoir actuellement. Il faut savoir que le championnat russe il termine le cycle aller termine au mois de décembre, donc les terrains sont totalement enneigés. C'est vraiment des matchs très très pittoresques, mais c'est vrai que ces longues trêves sont difficiles à gérer. Les joueurs n'ont pas vraiment de compétition ou quoi que ce soit, même si on dispute des coupes amicales, c'est pas le même enjeu qu'un match de championnat ou un match d'Europa League. Donc reprendre par un match d'Europa League contre l'Étoile Rouge de Belgrade, je trouve que le CSKA Moscou qui manquait énormément de rythme, même si c'était également le cas d'Étoile Rouge de Belgrade qui avait repris je crois quelques temps auparavant, ils s'en sont quand même pas trop mal sortis.
Ils s'en sont pas trop mal sortis, et sachant que les prochaines semaines sont déjà cruciales pour le CSKA pour sa saison européenne avec la double confrontation contre Lyon là qui arrive, mais aussi en championnat le CSKA va jouer l'Armat Grozny, Rostov, après il y aura le derby face au Dynamo Moscou à domicile. Donc là, les prochaines semaines, face à des équipes qui sont moins bien classées au championnat, vont aussi permettre de savoir est-ce que le CSKA va pouvoir se mêler à la lutte pour cette deuxième place ou va finalement craquer. Donc là, c'est vrai que c'est une reprise directement dans le vif du sujet et c'est pas forcément toujours facile à gérer.
Pour rajouter un petit point sur les conditions qu'on a évoquées, enfin qui viennent d'être évoquées, donc on a parlé de la condition physique des joueurs, mais je rajouterai un petit point sur les conditions matérielles de Moscou. C'est-à-dire qu'on s'attend quand même à des températures froides, très froides, en dessous des moyennes saisonnières. C'est-à-dire que jeudi soir, il est attendu moins 13 degrés à Moscou. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important et les Lyonnais ne sont pas forcément habitués à des températures aussi négatives.
C'est vrai que la météo, ça va être un facteur très déterminant pour cette rencontre. L'Olympique Lyonnais, même s'il fait quand même assez frais en France ces derniers temps, il joue très rarement par des températures négatives. Alors que le CSKA Moscou, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont de retour dans la capitale, qu'ils vivent au quotidien dans ces températures polaires. Et il est vrai que ce manque d'adaptation à des conditions climatiques extrêmes pour l'Olympique Lyonnais pourrait avoir un impact sur leur performance. Plus la température diminue, plus les performances physiques en manque d'adaptation vont baisser, ce qui est logique. Et comme le CSKA Moscou est tout de même plus habitué à jouer par ces températures polaires, ça pourrait être un point clé également de la rencontre.
Et on parle de la température, on peut aussi parler du terrain. Bon, on l'a vu contre l'Oural le week-end dernier, et même contre l'Étoile Rouge un peu avant, la pelouse de la VEB Arena n'est pas dans un état exceptionnel, ce qui peut se comprendre vu le froid, vu les conditions climatiques qu'il y a eu pendant l'hiver. Ça aussi, ça n'a pas forcément favorisé le beau jeu. Est-ce que ça peut être un avantage pour le CSKA, Robin?
Ça c'est sûr, j'allais dire exactement la même chose. S'il y a eu bien une équipe entre l'Olympique Lyonnais et le CSKA qui aime poser le ballon, avoir la possession, utiliser les espaces et faire tourner la balle, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Là on l'a vu ce week-end, le terrain est très gelé, il a été sablé pour permettre de jouer dessus, les températures seront très fraîches jeudi soir, donc c'est compliqué de proposer du beau jeu. L'Olympique Lyonnais va devoir s'adapter, ça c'est sûr et certain. Alors, est-ce qu'il va falloir passer par des ballons un peu plus longs que d'habitude, utiliser des duels, etc. Ça va être une inconnue de ce match. Mais le CSKA, comme on l'a dit, est déjà bien habitué à ces conditions-là. L'équipe est rentrée il y a maintenant plus de 2 semaines à Moscou, donc l'adaptation est déjà faite, même pour les joueurs étrangers de l'équipe. Mais l'inconnu est surtout du côté lyonnais qui va jouer dans des conditions auxquelles ils ne sont pas habitués, ça c'est sûr.
Bon, et pour terminer, la dernière question, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, messieurs. Pensez-vous que le CSKA a vraiment une chance de sortir l'OL?
Alors pour moi, le CSKA, même si l'Olympique Lyonnais a bien évidemment un effectif supérieur sur le papier au CSKA Moscou, je pense que le CSKA Moscou peut faire quelque chose. Pas parce que j'écris sur la Russie et que j'aime bien le CSKA Moscou, mais je pense vraiment que le CSKA Moscou peut avoir son coup à jouer, surtout sur ce match aller. Si le CSKA gagne ce match aller, ils ont vraiment un coup à jouer. Par contre, si c'est match nul ou défaite, ça va être très compliqué de ramener quelque chose de Lyon. Mais je pense que de la mauvaise forme qu'il y a en ce moment à Lyon et des conditions météo, le stade sera plein, l'ambiance sera au rendez-vous, même s'il manque certains joueurs dans l'effectif du CSKA Moscou, ils ont peut-être un coup à jouer. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent poser des gros problèmes à l'Olympique Lyonnais.
D'accord. Toi, Robin, t'en penses quoi?
Je suis assez d'accord avec l'analyse qu'Antoine vient de faire, à savoir que s'il y avait un moment dans cette saison pour le CSKA d'affronter l'Olympique Lyonnais, s'il y avait un bon moment, bah c'est ce mois-ci. L'Olympique Lyonnais n'est pas au mieux. Là, le match va jouer dans des conditions très difficiles. Donc là, le CSKA, clairement, le match aller va être important. Il va falloir gagner parce que si jamais l'Olympique Lyonnais était amené à s'imposer à Moscou, je vois mal comment le CSKA pourrait inverser la tendance à Lyon après.
Et Lazare, je te laisse donner ton pronostic au sujet de cette double confrontation.
Je suis vraiment pas optimiste pour le CSKA Moscou. De ce qu'ils m'ont montré face à l'Étoile Rouge, ils sont justement faibles sur les points forts de l'Olympique Lyonnais. Donc ça ne m'incite pas à l'optimisme pour les Russes. Sachant que bon, on a des Lyonnais qui sont obligés de faire bonne performance dans cette coupe européenne parce que bon, en championnat ils sont un petit peu, je vais pas dire largués, mais c'est compliqué pour eux. Ils voient la troisième place s'échapper de plus en plus. Donc une bonne performance, un peu comme l'année dernière en Ligue Europa, est importante. Rajouter au fait que bon, on a énormément d'absents, malgré le retour de Golovin qui était suspendu au match retour face à l'Étoile Rouge. Il manque des joueurs. Donc de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis pour Lyon.
Très bien, donc on a deux avis qui sont assez, on va dire, 50-50. Il y a un coup à faire pour le CSKA, en tout cas, s'il négocie bien le match aller. Et de l'autre côté, on a Lazare qui est plus pessimiste. Voilà, donc je pense que j'ai bien résumé. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. C'était assez complet et je suis persuadé que nos auditeurs auront trouvé leur compte. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour toutes ces informations et vous souhaiter à bientôt.
Merci beaucoup.
Salut Raphaël, merci.
À la prochaine, salut. Bonne soirée.
C'est la fin de ce 9e podcast, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous!